Nathalie Ferrand-Lefranc, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du réseau Environnement Santé. Nouvelle chronique aujourd'hui avec vous. On va parler des bisphénols A. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le bisphénol A, il y a aussi des bisphénols SCF, sont une des familles de perturbateurs endocriniens. Donc, qu'on étudie régulièrement avec aussi les phtalates. Donc, les phtalates, une autre famille de perturbateurs endocriniens qui est intéressante parce que ce sont des perturbateurs endocriniens qu'on élimine en fait tous les jours. Donc, on sait qu'en agissant sur les causes, c'est-à-dire sur les sources de ces bisphénols et de ces phtalates, on peut baisser rapidement notre niveau de contamination. Alors, on les retrouve en fait dans tous les produits du quotidien. Donc, les phtalates, c'est une matière plastique qui est un assouplissant des plastiques. Donc, on va le retrouver dans les films plastiques alimentaires, dans les rideaux de douche. Les phtalates, on les retrouve aussi dans les sols en PVC. On les retrouve aussi donc dans des cosmétiques. On les retrouve vraiment dans tous les produits objets du quotidien. Les bisphénols aussi, on les retrouve par exemple à l'intérieur des boîtes de conserve quand vous avez une pellicule blanche. Les bouteilles d'eau, je pense que je l'ai dit, je ne sais plus si
non,
vous le vérifiez dans les bouteilles d'eau. Donc ça pour les phtalates. Donc on les retrouve vraiment partout dans les objets de notre quotidien.
Et pourquoi justement ces produits-là sont utilisés ? Pourquoi c'est indispensable de les avoir partout pour
Alors,
les industriels ?
En fait, c'est lié notamment au plastique. Donc, l'industrie plastique s'est développée notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, le plastique, ben, c'est un produit qui est très léger. Donc, la différence entre un plan plastique et un plan en verre, vous le voyez très rapidement, c'est un produit qui ne coûte pas cher. Et c'est un produit qui peut prendre des formes absolument multiples, hein, puisque ça peut être des bas en nylon jusqu'à un contenant en plastique, hein, un arrosoir en plastique, etc. Et puis ensuite, ça peut avoir, en plus des formes différentes, ça peut avoir des couleurs différentes. Donc on peut en avoir du rouge, du rose, du jaune, du vert, etc. Et donc on a toute une société du plastique qui s'est développée avec ce matériau. Donc jusqu'à maintenant, les études qui concernaient les conséquences en fait de ces plastiques étaient assez peu connues du grand public, bien connues des professionnels, des scientifiques, mais encore peu connues du grand public. Et là, plus ça va, plus elles sont connues à cause des conséquences en fait sur notre santé.
Et justement, quelles sont les conséquences ?
Alors, les conséquences, c'est en lien notamment avec les grandes maladies chroniques. Donc, que ça soit le diabète, que ça soit l'obésité, les cancers hormonodépendants, les troubles de l'attention chez l'enfant, avec ou sans hyperactivité. On le retrouve dans certaines maladies neurologiques. Le développement aussi de l'enfant, donc dans toutes les grandes pathologies, maladies chroniques qui sont en très forte augmentation.
Et c'est encore utilisé, en fait, on produit encore avec ça.
Oui, oui. Et alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'on produit de plus en plus de plastique. Donc, plus on sait qu'il y a des problèmes, et plus on voit que c'est utilisé, que c'est produit. Et donc, on se rend compte que c'est aussi toute l'industrie de la pétrochimie, puisque le plastique est issu, en fait, du pétrole. Et donc, avec une diminution, en tout cas, on le sait, de l'utilisation par rapport à la mobilité, par rapport aux camions, aux voitures, etc. Et donc, du coup, on voit un développement, en fait, de la production de plastique, alors qu'on sait que c'est problématique. On retrouve du plastique, des microbilles de plastique, donc, dans les océans, mais on en retrouve aussi dans le placenta, on en retrouve dans les bouteilles d'eau minérale, on en retrouve absolument partout.
Du coup, et l'impact des perturbateurs endocriniens, concrètement, est-ce que ça agit aussi sur la fertilité, par exemple, sur ces choses-là ?
Tout à fait. Ouais. Donc ça induit des troubles de la fertilité, ça induit des troubles de la thyroïde. Donc au niveau de la fertilité, on est un homme de 30 ans, 50 ans, a perdu 2 spermatozoïdes sur 3. Le nombre de couples qui est avec des difficultés de fertilité, c'est 1 sur 5 en France et pratiquement 1 sur 4 en Occitanie. On a aussi des impacts sur la puberté précoce. Là, c'est la région, la Toulousaine, qui est la plus impactée de toute la France. Donc, les conséquences sont vraiment majeures.
Donc, d'où l'importance de connaître l'origine des sources.
Voilà, c'est-à-dire savoir en fait où on trouve ces perturbateurs endocriniens. Et là, il y a une étude récente qui a été produite par l'association américaine Consumer Report. Et donc, on voit qu'on retrouve en fait ces bisphénols et phtalates dans les contenants alimentaires. Donc, on pensait que c'était lié simplement en fait à la matière elle-même des contenants alimentaires. Et grâce à cette étude, on montre qu'en fait, c'est aussi lié à toutes les préparations qui sont avant la mise en place dans les contenants alimentaires, donc c'est-à-dire les tubulures, les gants qui sont utilisés par les travailleurs dans ces usines, les tapis roulants, et on se rend compte que toutes ces sources en fait s'additionnent. Et là, on tombe vraiment sur le problème des perturbateurs endocriniens qui est l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'un perturbateur endocrinien, s'il était tout seul et isolé, poserait a priori peu de problèmes, mais c'est le fait qu'il soit additionné avec beaucoup d'autres sources qui pose problème.
Et que font les pouvoirs publics sur cette question-là, justement ?
Alors, les pouvoirs publics, on aimerait qu'ils fassent beaucoup plus que ce qu'ils font, bien évidemment. Donc, on a quand même une stratégie nationale de perturbateurs endocriniens. La troisième version est en train d'être travaillée. On a aussi le plan national santé environnementale, dont la quatrième version va sortir très prochainement, au mois de juin, je pense. Donc, il y a un travail qui est fait au niveau des études, des démarches. Par contre, il faudrait mettre beaucoup plus de moyens dans la recherche publique sur ça. Et puis ensuite, prendre en fait des dispositions réglementaires et législatives, notamment pour interdire certains produits. Donc, on voit que malheureusement, au niveau européen, le glyphosate, donc, qui est un des pesticides où on retrouve ces perturbateurs endocriniens, a été autorisé de nouveau pour 10 ans. Donc, on voit qu'on est plutôt en train de reculer. Au mieux, on stagne, mais on n'avance pas. Donc, pour le réseau environnement santé, c'est très, très important de pouvoir faire passer l'information au niveau de la population, parce qu'une autre des problématiques des perturbateurs endocriniens, c'est qu'il n'y a pas de seuil réglementaire, enfin, il n'y a pas de seuil minimum. C'est-à-dire, dès le moindre seuil, vous avez un impact sur la santé. On n'a pas de seuil minimum. Et en fait, on se rend compte que les seuils réglementaires qui sont autorisés ne sont pas des seuils pertinents. Donc, il y a toute une réflexion qui est amenée là aussi sur ça. On souhaiterait que les pouvoirs publics écoutent beaucoup plus les scientifiques, puisqu'on a beaucoup d'études qui démontrent à la fois les problèmes sur la santé et puis ces questions de seuil. Mais on voit qu'on a du mal parce qu'on est confronté aussi, il faut le dire, au lobby industriel, alors qu'en fait, les industriels auraient tout à gagner à pouvoir intégrer en fait ces nouvelles normes pour pouvoir développer des matériaux, du matériel, des ustensiles qui soient exempts de ces produits toxiques.
Parce que ce que vous dites, en fait, c'est que le consommateur n'est pas du tout informé qu'il y a ces produits-là dans ce qu'il achète.
Alors, ça, c'est une grande difficulté. C'est que quand vous avez une liste d'ingrédients, donc on le voit par rapport à des cosmétiques ou des gels douche, etc., vous avez une liste très longue d'ingrédients, et à moins d'avoir une maîtrise en biochimie, c'est très difficile de savoir si tel ingrédient est un perturbateur endocrinien ou non. Donc, le plus simple, ça serait effectivement qu'on n'ait pas ces produits toxiques dans nos produits du quotidien. L'autre problème sur la liste des ingrédients, c'est qu'on se rend compte que certaines fois, tous les ingrédients ne sont pas notés. Et dans d'autres matériaux comme les produits dentaires, là, on n'arrive pas à avoir la liste des composants, en fait, des matériaux qu'on met en bouche, parce qu'ils sont soumis au secret industriel. Donc les industriels ne veulent pas dire ce qu'il y a. Or nous, puisque j'étais chirurgien-dentiste, en tant que chirurgien-dentiste, on place ces matériaux en bouche, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a aussi une question de responsabilité. Et donc on a beaucoup de travail à faire, mais on a une résistance qui est très forte.
Il y a peut-être un travail sur un label, par exemple, à mettre en place, ou comme une nouvelle lecture des étiquettes, peut-être, à mettre en avant sur les produits, vous pensez ?
Alors ça fait partie, effectivement, des outils qui permettent aux consommateurs de faire un choix éclairé sur ce qu'il achète. Donc ça fait partie, effectivement, des possibilités. Il y a des applications qui se créent là prochainement et qui vont être mises en place. Mais encore une fois, là, on travaille simplement sur les conséquences. et on ne travaille pas sur les causes. Et travailler sur les causes, c'est interdire l'utilisation de ces produits dès la source. Après, savoir que ça existe et laisser le choix aux consommateurs d'acheter ou de ne pas acheter, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est vraiment même insuffisant. Donc on repart sur la logique, effectivement, de la législation, de la réglementation. Les collectivités territoriales ont aussi un rôle par rapport au levier de la commande publique, c'est-à-dire que quand ils font des achats publics, pouvoir ne pas avoir ces produits toxiques dans la commande publique. Mais là aussi, si les industriels ne proposent pas de produits ou de matériaux censés toxiques, on est vraiment coincé pour la commande publique.
Comment on fait justement alors pour travailler sur les causes? Est-ce qu'il y a des industriels propres?
Oui, alors ça c'est intéressant, on a quand même des industriels qui se dirigent vers des matériaux exempts de ces toxiques. Alors vous avez déjà tout ce qui concerne la cosmétique bio, puisque la cosmétique bio on n'a pas. Et puis ensuite vous avez aussi tout ce qui concerne les meubles. Donc dans l'ameublement, on a aussi tout ce qui concerne les meubles, tout ce qui est canapé. Mmh. Dans tous ces matériaux-là, tous ces produits-là, on a des industriels au niveau européen. Il y a un consortium d'ailleurs d'industriels au niveau européen qui travaillent pour utiliser des matériaux exempts de ces toxiques.
Et puis en somme, en fait, il faudrait mieux acheter par exemple en vrac dans des sachets en papier plutôt que sous vide, sous plastique en fait.
Alors ça, déjà, ça serait une bonne chose, mais ce que nous montre cette étude-là, c'est qu'il faut savoir aussi comment sont conditionnés les produits en amont, avant d'être livrés en vrac. Puisque là, on se rend compte que avec les tuyaux en plastique, donc comme je disais, les gants utilisés par les travailleurs ou les tapis roulants, on retrouve une contamination par ces toxiques. Donc il faut vraiment avoir une vision, j'allais dire, globale de toute cette situation. Il faut le faire parce qu'on a de tels impacts sur la santé. Et on le voit, le nombre de personnes malades est de plus en plus jeune. Donc souvent, je cite l'obésité chez des jeunes, donc, ou le diabète de type 2, qui concernait plutôt des personnes d'âge mûr. Et maintenant, ce sont des adolescents qui sont concernés.
Est-ce que David pourra gagner contre Goliath, vous pensez?
Écoutez, en tout cas, on fait tout ce qu'il faut pour. Et plus on sera nombreux à pouvoir partager ces informations et les diffuser, et plus effectivement on aura de force pour pouvoir faire avancer cette problématique-là. Les politiques sont des élus. Donc avec nos bulletins de vote, on a aussi ce pouvoir ultime de pouvoir élire des personnes qui effectivement sont attentives à ces questions ou certaines personnes ne sont pas du tout intéressées par ces sujets.
Nathalie Ferrand-Lefranc, merci encore.
Avec plaisir.